Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bienvenue dans un nouveau numéro de l'émission Les Mille et Une Bulles consacrée à la BD. Comme chaque semaine sur Radio Présence Figeac 97.7. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir un invité côté féminin. Cette fois, c'est la première fois que nous avons un auteur féminin avec nous et ça nous fait plaisir. Donc, c'est Bénédicte Carbonneil, alias Carbone. Donc, Carbone, bonjour et bienvenue dans notre émission. Comment vas-tu ?
Eh ben, très bien, surtout que je suis ravie d'être du coup la première femme sur l'émission. Parfait.
Et c'est ça, c'est exact. C'est parce que je voulais quand même. Je veux alterner, comme je dis souvent dans l'émission, scénariste, dessinateur. Mais je n'avais jamais eu une scénariste. Et bientôt, d'ailleurs, j'aurai une dessinatrice aussi. Histoire de. Voilà, c'est normal.
Un peu d'égalité.
Exactement. Sinon, on va avoir des ennuis. Donc, c'est impeccable. Alors, toi, en parlant du côté féminin de la BD, je pose la question, tu préfères qu'on t'appelle comment ? Une auteure ou une autrice ?
Alors, comme moi, je ne suis pas toute jeune, en fait, au départ, on était un auteur. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est vraiment tout récent que ça se soit féminisé. Donc, en fait, je m'en fiche un peu, parce que ça ne change pas le métier que je fais. Donc, un auteur, une auteure, une autrice, scénariste, tout me va.
Ça t'égare. Mais je pourrais poser la question parce que je sais qu'il y en a certains, et c'est normal, je le comprends, qui veulent vraiment qu'on dise autrice pour qu'on comprenne que c'est le côté féminin. Mais c'est pour ça que je préférais te poser la question, que je ne fasse pas de bêtises.
Non, il n'y a pas d'impair.
Donc du coup, tu es né, si je me souviens bien, le 18 juin 1973 à Tours.
Ça, ça ne rajeunit pas.
Moi, je suis né en 72, donc je comprends tout à fait. Je voulais savoir du coup, quelles BD ont bercé toute ton enfance ? Avec quelle, je ne sais pas, tu as appris à lire avec une BD ou qu'est-ce qui a bercé ton enfance en fait ?
En fait, et surtout, j'avais deux frères qui étaient très BD-files. Moi, c'était pas forcément trop mon cas. Donc après, ben voilà, j'ai été baignée par les classiques, hein, Lucky Luke, Astérix, etc. Mm-hmm. Mais c'était pas forcément mes lectures à moi, mais elles étaient à la maison.
Et donc en fait, c'est un peu grâce à tes frères que t'as baigné dans les bulles en fait.
Ouais, c'est ça. Mais je suis un peu arrivée dans la BD par hasard quand même.
Mais on va en parler justement, parce que oui, tu vois, tu fais bien de me passer le plat. En fait, au début, alors je crois que c'est de 1995 à 2018, tu as été professeur des écoles à maternelle, donc à une instite. Raconte-nous cette période.
C'est ça, bah c'est une grosse période de ma vie. Hein. Donc, oui, j'avais une maman instite, et c'est vrai que j'ai toujours voulu être dans l'enseignement. Alors, je voulais plutôt être dans le secondaire au début. Et puis en fait je me suis assez vite retournée vers professeur des écoles. Et je suis restée plus de 20 ans en fait auprès des petits et même des tout petits, puisque je suis toujours restée en maternelle. C'est aussi grâce à eux que j'ai commencé à écrire en fait.
Et oui, justement, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'on sait très bien que les instituts, surtout en petite section, ils lisent beaucoup de livres. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que tu as eu l'idée d'écrire.
J'ai cru que tu allais dire qu'en maternelle, ils fichaient rien. T'as eu de la chance.
Non, ça, c'est au lycée. C'est pas maternelle, c'est plus tard, ça.
Oui, j'ai commencé à écrire, en fait, pour mes élèves. Hein. C'était pas du tout prévu que, en fait, je devienne auteureux ou autrice. Oui. C'est vrai que je m'y attendais en fait pas du tout. J'ai vraiment commencé à écrire une petite comptine pour mes élèves. Donc ça s'appelait La Vache sans tache, qui est devenue une histoire. Et puis je me suis un peu piquée au jeu. Donc voilà, j'ai vraiment adoré mon métier d'enseignante. Et donc j'ai écrit pour mes élèves. Puisqu'après, l'idée, c'était de travailler aussi en classe, du coup, à partir de mes livres. Ce que je faisais d'habitude sur les albums des autres, je faisais des exploitations pédagogiques, et donc on travaillait autour d'albums d'autres auteurs. Et puis, après, j'ai pu travailler autour de mes albums. Donc ça, voilà, c'était vraiment, vraiment chouette.
Tu étais encore instite quand tu as commencé à publier tes premiers albums ?
Ouais. En fait, c'est vraiment, voilà, ça a vraiment été pour eux. Et puis, en fait, une histoire, bah, on a entraîné une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis, bon, moi, je me suis mis à mi-temps. Et puis, je suis revenue dans l'enseignement. Je me suis mis en dispo. Enfin, voilà, j'ai un petit peu navigué. Donc là, j'écrivais en fait sous mous vrai nom, donc Bénédicte Carbonneil. Mmh. Et puis, j'ai basculé voilà, du côté obscur de la BD en fait en 2016, aussi par hasard. Mais... Et donc c'est là que j'ai pris le pseudo de Carbone et que j'ai dû faire un choix en fait entre continuer d'enseigner, mais même à mi-temps, voilà, c'était un petit peu compliqué donc de pouvoir tout bien faire. Donc voilà, j'ai arrêté l'enseignement en 2018.
Mais là aussi mignon, c'est parce que donc tu disais que tu avais fait des livres donc pour tes enfants, et c'est bien parce qu'en fait moi je dis toujours dans les moi à mon niveau je fais des dédicaces pour mes albums, et je le vois, on voit dans les yeux des enfants, on voit direct s'il est intéressé ou pas du tout. Donc toi, ça a dû t'aider quand même quand tu as fait tes premières comptines, tes premiers textes.
C'est ça en fait. Bah, c'est que j'avais quand même les enfants entre guillemets sous la main, j'avais un public c'est quand même un public auquel je savais m'adresser. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup écrit pour les 3-6 ans, en fait, voilà, niveau maternel, du coup, que je connaissais quand même plutôt bien. Donc les contraintes éditoriales, parce qu'en littérature jeunesse, c'est quand même vraiment très, très, très calibré, hein, voilà, donc selon la tranche d'âge. C'est vrai que pour moi, ça a été assez facile, en fait. D'écrire pour ces élèves-là, et c'est comme tout, plus on en fait et plus ça devient assez facile, voilà, de connaître ce qui les intéresse, comment on leur parle, quel vocabulaire on va utiliser, alors que tu n'utiliseras pas le même mot pour la tranche d'âge au-dessus, etc. quoi.
Exactement, c'est ça, c'est pour s'adresser aux enfants, c'est particulier. Mais c'est ce que j'aime beaucoup, voilà, comme je te dis, dans les yeux des enfants, tu comprends tout. Ça, c'est nickel.
C'est ça.
Donc, c'est La Vache sans tache, ton premier livre paru ou...
Ouais.
Ouais, c'était tout début.
C'est ça, ça a été le tout début.
Ben, parce que j'ai eu, mais en plus, au niveau album jeunesse. Parce que je me suis mis, donc j'ai mon ami Google qui me donne beaucoup d'infos, et heureusement que je l'ai. Et du coup, bon, j'ai pris quelques histoires que tu as fait pour les tout-petits, enfin les enfants. Je dis pêle-mêle, après c'est toi qui rajouteras ou pas. J'ai vu qu'il y avait Bonnie and Clos, Le Passe-Temps.
Voilà. Là, on est côté BD, ouais.
Après, oui, voilà.
Pour le moment, en BD, en fait, j'ai vraiment fait que de la jeunesse.
Voilà.
Donc, mais, j'ai changé de médium. Et j'ai pris un pseudo, et donc je suis passée sur la BD, mais c'est vrai que pour le moment, en publication, j'ai vraiment aussi que de la BD jeunesse tout public, quoi.
Oui, mais j'ai vu, mais en plus, alors, d'ailleurs, je vais poser la question que je pose à chaque fois. D'abord, c'est j'ai vu donc tous tes albums et tout, il y a un peu de magie, il y a un peu de côté extraordinaire, toutes ces histoires. D'où te vient cette imagination, honnêtement, débordante? Où tu chopes tes idées?
J'en sais rien, c'est ce que j'explique aux enfants quand je suis en animation, c'est qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient, en fait, l'imagination et l'inspiration. Alors après, moi, pour l'analyser, voilà, prendre un petit peu de recul, je pense que c'est aussi un petit peu comme un muscle qu'on va travailler, et plus tu le travailles, et finalement, plus tu vas être réceptif à un peu tous les déclencheurs, quoi. Donc voilà, tout peut être source d'inspiration si tu veux bien l'entendre, quoi.
Et justement, j'en viens à ce que je pose à la question à chaque fois aussi. Comment s'organisent les journées de Carbone, justement, quand elle écrit? Comment ça se passe?
Alors avant, j'ai mon côté très scolaire, voilà. Donc j'ai mon agenda, j'ai ma journée, j'ai des choses qui sont prévues, j'essaye de m'y tenir. Après, moi, je travaille à la maison, donc voilà, je me suis fait un espace bureau à la maison. Uh-huh. Et après, voilà, même au départ, je mettais le réveil, j'essayais de me tenir à faire vraiment des journées qui étaient peut-être un peu trop chargées d'ailleurs. Maintenant, voilà, j'y vais un petit peu plus cool. Je vais plus mettre le réveil, mais je vais essayer, voilà, tous les jours de m'astreindre à faire ce que j'ai prévu par jour, par semaine, parce que voilà, il y a quand même plusieurs projets qui des fois s'entremêlent, s'entrecoupent, et Et donc, faut pas non plus se laisser aller.
Oui, voilà. Et alors, c'est marrant parce que bon, chaque auteur. Alors, toi, tu me dis qu'au début, tu avais essayé de te caler les horaires du bureau, mais ça n'allait pas, si j'ai bien compris.
Si, je l'ai fait longtemps. Et puis, c'est vrai que maintenant, je m'autorise un petit peu plus de liberté. Voilà.
Et voilà, parce que
j'ai pas envie de travailler à un moment. De toute façon, voilà, c'est aussi. On n'est pas des machines et on travaille pas non plus sur commande. C'est vrai que quand on est sur un synopsis, enfin voilà, là j'étais sur un synopsis, il y a un moment je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire, ça ne sert à rien de m'obstiner à rester devant mon ordinateur, je sais que ça ne viendra pas. Donc voilà, je vais faire d'autres choses, quitte à ce que ce soit même aller faire des courses ou sortir le chien. Et puis je sais que ça finit par se débloquer, alors peut-être pas forcément le jour même, mais peut-être que le lendemain, ça y est. Paf, justement, en allant promener le chien, il s'est passé quelque chose où j'ai rencontré quelqu'un et ça va débloquer, moi, ma situation et mon problème dans mon synopsis, quoi.
Oui, je comprends. Donc
ça, voilà, au départ, c'est quelque chose que j'avais un petit peu de mal à faire, un peu de lâcher prise, on va dire, à m'astreindre, voilà, aussi, des fois, peut-être trop de choses. Et maintenant, je le fais plus au feeling. C'est peut-être la sagesse qui rentre.
C'est ça. C'est, dès qu'on a un certain âge, on est sage.
C'est ça, voilà. Voilà. Ben oui, j'ai passé un cap année. Donc c'est peut-être ça qui fait que je le prends plus cool.
C'est le cap de la sagesse. Et du coup, alors, parce que tu as vraiment beaucoup d'histoires, j'ai pris les principales pour les auditeurs qui ne connaissent pas ton univers. Donc, tu as fait des BD donc, dans Les Yeux de l'IA, La Boîte à Musique, La Brigade des Souvenirs, Complot à Versailles. C'est vraiment des histoires tout aussi différentes les unes que les autres que tu proposes.
C'est ça. Alors après, il y a plein de projets aussi. On pourrait raconter l'histoire de chaque histoire, en fait. À chaque fois, voilà, il y a une petite histoire derrière tout ça. Et c'est vrai que autant il y a des projets que moi j'ai monté toute seule, comme Le Passe-Temps, La Boîte à Musique, Dans les Yeux de l'IA. Et puis il y a aussi des projets que j'ai au co-scénario, donc comme La Brigade des Souvenirs, etc. Et puis Complot à Versailles, là c'était mon premier projet d'adaptation, voilà, où on était venu me chercher, donc c'était encore une autre démarche. Puisque j'avais jamais fait d'adaptation. C'est vrai qu'a priori, Complot à Versailles, j'aurais été incapable d'écrire le roman comme Anigé l'a fait. Et je trouvais l'exercice, je l'ai pris comme un exercice, de dire qu'est-ce que je peux faire à partir d'un roman, d'en proposer une bande dessinée, donc quand même très fidèle, à ce que Anigé avait fait. Et puis après, en fait, on s'est un petit peu laissé porter par le truc. Et c'est vrai que quand les éditions Jungle, en fait, m'ont proposé de continuer en fait les aventures qu'Anigé avait créées, c'était un peu une surprise. Et ça a été assez sympa, puisque du coup, depuis le tome 5, en fait, c'est des aventures inédites. Donc là, je suis au co-scénario avec Cécile Millard. Et on s'amuse bien en fait à continuer du coup les aventures d'un personnage qu'on n'a pas créé au début, quoi.
D'accord. Du coup, alors, c'est comme je dis à chaque fois, c'est vrai que ça passe trop vite, hein, ta compagnie Carbone. Nous allons faire une petite pause musicale sur Radio Présence Fichier 97.7. C'est donc un titre que tu as choisi. C'est Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. On se retrouve après. Merci Carbone.
Présence à Figeac 97.7.
Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que
au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves.
maison s'achève tout au bout de mes rêves.
Et même s'il faut partir, changer de terre ou de trace, s'il faut chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace. Et même si les tempêtes, les dieux sous le vent,
j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes
de nos amours. Je garderai la blessure au fond de moi, tout au fond, mais au-dessus, je te jure que j'effacerai ton nom.
Et nous voilà de retour pour les Mille et Une Bulles que nous consacrons cette semaine à un auteur féminin qui est Carbone. Donc Carbone, nous avons fait le tour de ta carrière tout à l'heure. J'ai une petite rubrique que je pose à chaque fois aussi. À part la BD dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as des hobbies à côté ?
J'ai plein de choses en fait. Ah. J'ai pas une passion, je touche un peu à tout, par période. Bon, après, je suis quand même assez lecture. Mais bon, voilà, je m'occupe bien. En ce moment, je m'amuse à faire des escape games.
Ah oui, ça c'est la... Enfin, oui, j'allais dire, c'est la mode. Oui, j'en entends souvent parler de ça, des escape games. Je ne me suis pas encore aventuré. Il faudrait que j'essaye.
Ah ouais, là, je m'amuse à en fabriquer, en fait, qui sont dans une valise ou dans un sac.
Ah, d'accord.
Voilà. Ouais.
Et il y a possibilité, après, que tu les édites, non ?
Alors en fait c'est pas des trucs qui sont éditables,
ouais,
c'est-à-dire que en fait j'arrive avec par exemple en animation, je vais arriver avec mon sac à dos et voilà, il faut retrouver le propriétaire du sac à dos et lui rendre.
Ah,
mais
d'accord.
Déjà faut-il l'ouvrir.
Le sac magique.
Voilà. Donc il y a le sac à dos de la sentinelle, il y a la valise de la brigade des souvenirs, voilà, et là je suis en train de faire le sac de voyage de l'IA.
Ah, ça, ouais, c'est bien.
On s'amuse comme on peut.
Non, mais il est pas mal le concept. En fait, chaque sac, c'est une série.
C'est ça. C'est
ça, c'est génial. Impeccable. Donc, la dernière partie de notre émission. Alors, d'habitude, je fais un quiz, mais là, alors, j'ai pas peur de dire aux auditeurs que tu m'as donné l'idée, Carbone, et je te remercie. Nous allons faire, en fait, un portrait chinois. Donc, tu sais ce que c'est. Hein, on pose la question si tu étais. Voilà. Et après, en quelques mots, tu me dis ta réponse. Donc, première question. Ça correspond à ce qu'on parle, c'est Carbone, si tu étais une héroïne de BD.
Une héroïne de BD. Bon, je vais rester parmi mes héroïnes, hein, parce que c'est vrai que j'ai souvent des héroïnes dans mes BD. Je serais Nola. Mm-hmm. Donc Nola, c'est l'héroïne de la boîte à musique.
C'est celle qui te correspond le plus ou simplement celle que tu as le plus de d'affection?
Ouais, aussi parce que la boîte à musique, ça a quand même clairement changé ma vie. C'était pas ma première BD, c'était juste ma deuxième BD et qui a quand même clairement changé ma vie. Et puis que j'ai quand même vraiment vraiment beaucoup d'affection pour pour cette petite fille quoi qui a perdu sa maman et donc même si on est toujours de toute manière un peu de soi dans ces personnages
Coup la deuxième question je pense que j'ai la réponse je la pose quand même et du coup si tu étais une BD tu serais
si j'étais une BD oui. Pas forcément à moi
oui bien sûr Peut-être une BD qui t'a marqué plus que les autres.
J'en ai quand même pas mal. Je resterai sur la boîte à musique.
Bah, très bon choix. Très bon choix. Et tu es...
Parce qu'après, j'ai du mal à choisir, en fait. Donc,
je vais jouer
égoïste, en fait. Voilà.
Non, et puis je sais que c'est pas évident de rebondir directement. Par contre, donc, si tu étais maintenant une femme célèbre, n'importe quelle femme, hein, n'importe quel métier, n'importe quel univers.
Une femme célèbre.
Oui.
Oh là là, la colle. Bon, alors après, tant pis, hein, c'était mon idée, hein, donc je vais assumer.
Tu ne peux pas reculer.
Le premier nom qui me vient, c'est Simone Veil.
Et, alors, ne me dis pas, je n'ai pas de nom de médium, hein, mais justement, quand j'ai posé des questions, j'ai dit. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir te répondre et
j'ai pas... c'est vrai.
Et je jure que c'est vrai. Et j'ai pensé à Simone Veil parce que c'est une dame que j'ai, ben, une grande dame. Et j'avoue, ouais, tu vois, comme quoi. Et en plus, il n'y a pas longtemps, ça fait un petit clin d'œil à mon ami Pascal Bresson. J'avais invité Pascal Bresson qui a fait un livre justement sur Simone Veil. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'est venu dans la tête. Donc très bon choix aussi, tu vois. Toi, tu n'as pas collé longtemps, c'est impeccable. Dis-toi si tu étais un pays.
Si j'étais un pays. Je ferais la France parce que je trouve qu'on y est bien. On a quand même beaucoup de chance d'avoir de vivre en France et d'être bien protégé. Il y a plein de défauts, etc. Ça pourrait bien évidemment être mieux, mais quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se dit qu'en fait on a quand même
on est
plutôt bien. Voilà, hein, on est plutôt bien.
Et si tu étais donc maintenant un animal ?
Un animal, je serais un chat.
Ah, j'ai cru que tu allais dire chien, comme tu m'as dit que tu avais un chien.
Non, alors j'ai un chien, mais j'ai surtout deux chats. C'est plutôt le chien de monsieur et les chats de madame.
Ah, d'accord, voilà. Ok. Chacun son animal, comme ça au moins.
C'est ça, voilà. Donc je n'hésite pas, ce serait un chat.
D'accord. Alors ça, c'est un peu rapport avec l'univers BD. Si tu étais une couleur.
Si j'étais une couleur, j'aime beaucoup le bleu.
Le bleu, tu m'as dit ?
Ouais, le bleu.
Et, alors, pas de rapport, mais j'enchaîne. Et si tu étais une fleur ?
Ah, si j'étais une fleur. Une fleur. J'aime beaucoup, beaucoup les fleurs. J'aurais bien aimé être une pivoine.
Ah, c'est original, toi. Parce que je m'attendais le coup classique, une rose, une... Non, tu vois ?
Non, parce que j'aime beaucoup justement la fragilité aussi de la pivoine et en même temps, une pivoine.
Non, mais voilà. Ensuite, si tu... Alors, je pense avoir la réponse, mais on ne sait jamais. Si tu étais un métier ?
Si j'étais un métier...
Peut-être un métier que tu aurais voulu faire, parce que tu as été instite, mais est-ce que peut-être qu'il y avait un métier que tu avais...
J'aurais bien voulu, mais ça, je sais pas pourquoi, mais j'aurais bien aimé être sommelière.
Ah.
Ouais.
Ah, je m'attendais pas. En fait, je me fais coller moi-même, je m'y attendais pas. Et la dernière question, parce que malheureusement, ça passe vite, et j'ai mon assistant qui va commencer à me faire des grands signes avec des bras et tout, là.
Elle parle trop.
Non, il va me le dire après, en antenne. Et la dernière question, c'est... J'allais dire, si tu étais un scénariste célèbre, mais scénariste de écrivain, dessinateur BD, de film, enfin voilà, vraiment global.
On va dire ce que j'aurais bien aimé écrire.
Oui.
Moi, j'aurais bien aimé écrire Le Petit Prince.
Ah oui, voilà. C'est joli. Ouais.
Donc Antoine de Saint-Exupéry, tellement que j'ai une de ses citations tatouées.
Ah d'accord. On peut savoir la citation ou...
Oui, c'est fait de ta vie un rêve. Alors moi, je l'ai un petit peu transformé et c'est de tes rêves ta réalité.
Ah, d'où le titre avec Goldman aussi, peut-être que c'est un rapport, le rêve. C'est... Ouais, très joli.
Ouais, c'est ça, c'est un peu...
Et bien, écoute, du coup,
vivre sans regret.
Du coup, toi, tu n'as pas été vraiment collé sur Portrait chinois. Hein, tu vois, tu m'as, t'as donné l'idée, mais tu as bien assumé, c'est nickel. Mais écoute, bon, malheureusement, on va devoir te quitter, car bon, tu vois, ça passe très, très vite.
Ouais.
Nous te remercions d'avoir accepté d'être de la première auteure féminin ou autrice. Chacun verra comme il veut. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je voulais te poser la question, tu vois, en début d'émission. Donc, je te remercie. La semaine prochaine, nous accueillerons donc un dessinateur, Thierry Robin. J'en profite aussi, avant de conclure, de faire un petit clin d'œil, en fait, à, on va dire, à un collègue de radio qui anime une émission BD qui s'appelle Bulle Zygome. C'est Radio Toucan. Alors, Radio Toucan, vous avez, c'est pas vraiment l'oiseau, c'est un jeu de mots avec la ville de Caen, parce que c'est là-bas que ça se passe. Et chaque lundi, il fait donc une émission qui s'appelle Bulle Zygome. Et donc, on s'envoie des petits, un petit signe d'amitié comme ça par émission interposée. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi Les Mille et une Bulle. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine avec Thierry Robin. Et bienvenue, encore merci pardon, à Carbone d'avoir répondu merci. Si bien à toutes ces questions.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup Carbone. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Les Mille et une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.